mais il va falloir qu'il arrête à un moment donné.
Pendant les études.
Ben, non, c'est plus informel que ça. Alors, j'allais seulement montrer des photos de mes trois terrains les plus grands sur le crack et la cocaïne et l'héroïne. Et je l'ai organisé pas par coïncidence, mais par souci, sur essentiellement le thème que tu as relevé sur les questions des identités, des âges, des cultures, et je trouve que ce projet a une chance de pouvoir faire une exploration de ces dynamiques qui sont très peu compris. C'est comme si les cycles de drogue, on les voit historiquement. On peut même si on prend le temps, on peut se souvenir d'eux. Et si on regarde les journaux des années 10 et 20 aux États-Unis, ils ont même changé le revolver qu'utilisait la police à cause de l'épidémie de cocaïne dans le Sud. C'était un truc raciste. Ils disaient que la cocaïne donnait trop de pouvoir aux Noirs et il fallait un revolver plus grand pour les tuer et les arrêter. Parce que ils ont même changé la grandeur des revolvers. Alors c'est des trucs assez extraordinaires, mais complètement oubliés d'une certaine manière. Et si on arrivait à les comprendre systématiquement dans la santé publique, peut-être qu'on pourrait même les affecter d'une certaine manière, de manière positive. Et le questionnaire de Élise du projet Interface a beaucoup de possibilité de donner des débuts de pistes là-dessus. Bien sûr que d'une certaine manière c'est impossible à comprendre, mais c'est un peu un défi. Alors j'avais mis là, c'est pas correct parce que je me rends compte que ce que j'ai mis pour le Canada, mais il y a quand même il y a des patterns qui sont intéressants. Mon premier terrain duquel je vais parler, c'était très vite fait aux États-Unis, la transition entre la cocaïne injectée et le crack fumé. Et c'était un peu les mêmes raisons de pourquoi il y a eu tout d'un coup une cocaïne très 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 bonne et très bon marché qui est venue plus ou moins en 82-83 à cause de la politique du gouvernement d'arrêter la marijuana. Alors les cartels colombiens qui importaient la marijuana ont changé à importer la cocaïne. Le prix a baissé de 200% très très vite parce que c'est beaucoup plus facile de faire rentrer la cocaïne qui est petite et peu de poids. Et alors, on a vu ça très vite sur la rue, le prix de la cocaïne qui a tombé et la qualité de la cocaïne qui est montée. Et il y a tout d'un coup eu beaucoup de monde à New York, Miami, etc., qui commençait à injecter plus la cocaïne ou injecter l'héroïne et la cocaïne ensemble, ou plus même la cocaïne. Mais ça n'a pas duré longtemps, c'était jusqu'à 85 plus ou moins.
Quand tu parles de crack, est-ce que c'est une crack privée aussi ou...
Ben, il y avait, notre vocabulaire est un peu différent du vôtre, si j'ai compris de tes notes, de comment les gens te l'expliquent. Pour nous, il y avait du freebase, essentiellement maintenant il n'y a aucun freebase. Notre freebase était du crack sans bicarbonate. Alors c'était du crack fait, j'ai oublié avec quoi.
Avec
quelque chose qui est flammable. Alors c'était ce qui a brûlé la face de Richard Pryor. Ça c'était du freebase. Alors les gens ne touchent pas à ça parce que c'est trop dangereux. C'est-à-dire tu exploses, c'est trop facile de t'exploser et c'est difficile à manipuler. Tandis que faire du crack avec la bicarbonate, c'est facile. N'importe qui peut le faire sur sa cuisine. Et c'est aussi, ça vaut plus d'argent parce que tu ajoutes le poids de la bicarbonate à la cocaïne et alors ça donne plus à vendre. Mais alors on voit pas, on n'a même pas le mot maintenant dans la rue, disons. Tandis qu'ici, ça persiste. Les gens font des différences entre Freebase et Crack. Mm. Oui, parlent de différences.
Oui, la Freebase, à l'époque, que je la fumais, c'était avec la bicarbonate. Et quand je fumais le Crack, c'est avec l'ammoniaque.
C'est la définition qui donne
ici, ça, c'est ici.
Ça, c'est ici.
Oui, mais on n'a pas cette définition. Et ce qui est formidable aux États-Unis maintenant, c'est que l'épidémie était essentiellement dans les secteurs les plus vulnérables, les plus pauvres, qui traditionnellement avaient le taux de consommation de drogues destructives plus haut. La majorité fume la marijuana et boivent la bière fortifiée. Mais il y a maintenant, comme vous savez bien, une entrée de méthamphétamine, mais c'est dans des secteurs très différents des secteurs traditionnels de consommation. C'est dans le secteur rural et blanc, de souche blanche. Et dans les grandes villes, il y a très peu de speed, sauf dans les communautés gays, dans les clubs et dans les parties de sexe. Mais c'est moins représenté dans le secteur traditionnel qui utilisait l'héroïne et fumait le crack. Bien qu'il y a une entrée, il y a une entrée, mais alors, mon premier terrain, il n'y avait pas encore le mot crack, il y avait le mot freebase, et il y avait le mot. Mais les gens faisaient il y avait beaucoup, beaucoup de cocaïne. Je me souviens bien parce que ça m'a pris du temps comme ethnographe pour pouvoir le croire. Parce que je me souvenais de la cocaïne quand j'avais été à l'université, très, 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 très cher, 100 dollars, 120 dollars le gramme. Et tout d'un coup, j'entendais les gens qui disaient que c'était 30 dollars, 20 dollars, des prix. Et alors je disais, ça c'est bizarre cette arnaque. Comment il peut inventer que la cocaïne peut être si bon marché? C'est un grand mensonge. Ça m'a pris presque un an pour croire même ce que disaient les vendeurs dans la rue d'une certaine manière. J'avais une résistance à comprendre l'arrivée qui était très soudain de la baisse de prix. Ça c'était en 83. Alors j'ai pris un appartement à East Harlem qui était devenu comme 4 mois après que j'ai pris mon appartement l'épicentre à New York, ou un des épicentres du crack. Alors le mot crack a commencé à être un mot qu'on entendait dans l'automne à New York. Ça change, c'est un peu différent dans les différentes villes aux États-Unis. Mais en automne de 85, on commençait à entendre le mot crack. Et chaque ville prétend qu'eux, ils ont eu le crack en premier. Il y a Miami et Los Angeles qui disent qu'ils avaient avant New York. Alors j'ai fait amitié avec les vendeurs à côté de mon appartement. J'étais dans la communauté portoricaine et c'était il n'y avait pas de données quantitatives. Je ne savais pas tout à fait ce que je voyais d'une certaine manière pour le comparer à des données qui existaient. Essentiellement, j'ai fait amitié. C'est la même méthode qu'utilise Nelson de participation à l'observation, c'est-à-dire faire amitié et essayer de faire les interviews dans un contexte de conversation pour pas que la personne sente consciemment ou inconsciemment l'obligation de répondre à des questions et de se présenter d'une manière honorable c'est de tâcher d'avoir accès dans le contexte spontané et aussi de pouvoir voir ce que fait la personne et aussi de voir de ce que dit la personne qu'elle fait. Il y a beaucoup de gens qui disent je ne fais pas ça parce que honnêtement ils ne se souviennent pas qu'ils font ça ou ils n'aiment pas croire qu'ils font ça. C'est trop douloureux dans leur tête de se souvenir de ça. Et quand tu es avec eux en marchant dans la rue, tu commences à voir les contradictions de leur propre vie et tout ça. Bon, c'est des trucs de common sense. Alors, on n'avait pas de santé publique cohérent, on n'a encore pas aux États-Unis. C'était le moment du Just Say No, c'est ça qui est écrit dans la muraille. Alors, le vendeur de crack vendait le crack devant cette muraille que lui-même avait peint. Et là, ça, c'était une maison, c'est la maison de vente de crack où j'ai travaillé pour 5 ans. Travaillé comme anthropologue.
Il était très
et c'est.
Ça fait de l'argent.
Et les vendeurs, c'était le moment quand le crack était cool. C'est difficile à se souvenir presque maintenant aux États-Unis parce que c'est tellement mal vu parmi les jeunes. Mais dans ce temps-là, c'était tout nouveau, il fallait l'essayer, quoi. Alors ça a arraché toute une génération de jeunes garçons et jeunes filles de 17, 18, 20, 20, tous les gens qui se mettent dans la rue, qui sont avec beaucoup d'énergie, qui veulent essayer la nouvelle mode et tout ça. Dans le contexte de fêtes et de choses comme ça. Et alors ça, c'était ces moments-là, non, dans les années 80.
Ça.
Oui, mais c'était au fait de baptême du chef des maisons de crack qui baptisait. Il avait deux fils avec deux filles différentes. Il les baptisait ensemble et c'était la fête. Et ça, c'était tous les gens qui travaillaient pour lui. Il m'a acheté un appareil photo pour que je prenne les photos de la fête. Je n'ai pas mis la photo de lui, mais il est en prison maintenant. Et alors, il n'y avait pas de politique, comme je dis, il n'y avait même pas de discussion de possibilité de politique de réduction de risque, etc. Il y avait des efforts, comme lui par exemple, il était un des vendeurs. L'autre vendeur avait réussi à arrêter sa consommation de crack en vendant, parce qu'il avait tombé très vite dans une consommation de paranoïa, comme on voit souvent et il s'est... Il a perdu son travail de vendeur, et alors pour reprendre son travail de vendeur, il fallait qu'il laisse tomber la fumée de crack, sinon il n'allait pas être repris par le chef du truc. Alors il avait son copain qui avait le même problème de fumée de crack. Alors il essayait de le faire sortir du crack en l'obligeant de sniffer la cocaïne en poudre. C'était son effort de réduction de risque. Ça n'a pas marché dans 100 cas. Dans 100 cas, ça a plus ou moins marché, sauf qu'il s'est mis éventuellement à l'héroïne. Mais c'est pour tes questions de transition. Mais lui, il a jamais pu, et il est encore dans le crack maintenant à l'âge de 45 ans, 43 ans. Mais là, il était à 18 ans, 21 ans, dans sa mémoire. Et il était fort, il faisait peur aux gens. Là, il allait tabasser un client parce qu'il aimait la violence. Et c'était aussi le moment où il y avait ces nouveaux phénomènes du changement de prostitution, avec la perte, avec l'entrée de femmes très jeunes qui ne pouvaient pas être contrôlées d'une certaine manière par les pimps, et parce qu'elles échangeaient le sexe pour la drogue lui-même, et ça a complètement détruit le marché du sexe d'une certaine manière. Les prix ont baissé à des prix irrisoires, très très... Alors il y avait c'était une maison qui spécialisait, à cause de la personnalité type qui était dans la maison, qui attirait les filles qui s'échangeaient pour du sexe, et les gens savaient qu'ils pouvaient aller à... C'était pas on payait pas pour aller à la maison, il fallait seulement donner un peu de crack à lui, justement. Et malheureusement, aux États-Unis, il y a toujours le problème de la violence beaucoup plus forte qu'ici. et qu'il y a, tout, il y a cette présence de coups de balle et de meurtre. Ce qui était intéressant, c'était de voir comment c'était normalisé. Alors ça, c'est la maison de vente de crack, et c'était l'endroit où les enfants venaient parce qu'il y avait du monde, c'est-à-dire il y avait des adultes là, c'était quelque chose à faire. C'était intéressant, au moins il y avait des gens qui rentraient et sortaient. Parce que leur autre opportunité, ça, c'était d'aller au parc à côté, et ce n'était pas une option, c'est-à-dire c'était la destruction de... Bon, l'infrastructure aux États-Unis est détruite de cette manière dans les quartiers du ghetto. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces jeunes-là... Bon, alors premièrement, la politique des États-Unis n'a pas été la santé publique, ça a été la guerre à la drogue de version d'arrêter les consommateurs plus que n'importe quoi. Maintenant, si j'ai arrêté ça en 87, maintenant ils viennent de sortir les nouveaux chiffres, c'est à 2 millions maintenant. Ça continue. On a maintenant le taux le plus haut du monde industrialisé. Ils disent du monde, mais j'arrive pas à le croire. Mais c'est...
On va vous rattraper.
Non, vous croyez jamais.
On va s'essayer.
Mais ce qui est extraordinaire, on oublie souvent ça, mais que c'est vraiment extraordinaire, non? Parce qu'on croirait que cette guerre à la drogue aurait quelques effets. Et c'est incroyable, le prix n'a jamais été aussi bas et la pureté n'a jamais été aussi haute qu'elle ne l'est durant les derniers 10 ans. C'est difficile à croire, mais ça c'est les chiffres du gouvernement américain qui achète les drogues dans toutes les grandes villes et met sur l'internet chaque mois le prix de l'héroïne et le prix ça, c'est de l'héroïne, c'est ça qu'ils suivent de plus près. Ils font ça aussi avec la cocaïne. Alors, juste pour résumer, on a eu tous ces changements, non, de cycle d'héroïne. Il y a eu l'héroïne qui a pris toute une génération, surtout afro-américains, latinos dans les ghettos, dans les années 60 et 70. Et c'est très facile à oublier, mais on peut regarder la littérature de la période, mais c'était cool d'être un heroin addict. C'est drôle à le penser, mais c'était quelque chose de valorisé, spécialement dans les fins des années 50 avec les jours de jazz et tout ça. Et ça s'est arrêté vers la fin des années 70, et avec l'entrée de la cocaïne, il y avait un rejet à l'héroïne, avec tant d'overdoses et aussi les gens qui devenaient maigres et mouraient et tout ça. Et alors la cocaïne en poudre était courte. Après ça, très vite après ça, le crack jusqu'au début 90, et très vite le crack s'est brûlé d'une certaine manière, et depuis les derniers 25 ans, c'est surtout la marijuana dans le secteur le plus vulnérable à la drogue. Bien qu'il y a aussi un nouveau secteur rural et gay urbain qui a eu une augmentation dans les derniers 5-6 années extraordinaires du speed. Et ils disent que même le speed commence à tomber dans certaines régions à cause de sa destructivité d'une certaine manière. Mais on comprend peu, et c'est peu documenté. Ça varie aussi par région du pays, non? Mais j'ai mis ça en grande ligne. Là, mon terrain des derniers 12 ans, c'était alors avec la génération des années 70 qui s'était fait addict à l'héroïne, qui, qui représente aujourd'hui la majorité des itinérants dans la rue. On a eu un vieillissement très marqué dans les études épidémiologiques que chaque année, l'âge devient de plus en plus vieux. Et là, c'était mon début des dialogues avec l'épidémiologie, parce qu'il y a des très bonnes cohortes et des très bonnes données et de chiffres. Et c'est là. Et alors, le groupe que j'étudiais était un groupe multiculturel. Bon, ça, c'est la mensonge d'ailleurs, la mensonge ethnographique. C'est-à-dire, tu peux trouver ce moment dans la rue, mais ça ne représente pas la réalité de la rue. La réalité de la rue, aux États-Unis, on est un pays vraiment raciste, c'est que les blancs haïssent les noirs haïssent les blancs, les latinos haïssent aussi les deux, mais ont plus de choix de bouger un peu entre les deux. Non? Et bien qu'on voit latinos, noirs et blancs là, dans un moment d'amitié, en vérité, il y a une division, même sur les mêmes coins de rue, très 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 marquée, et même des préférences de manière d'utiliser la drogue différente. Mais ça, c'est le secteur, pas majoritaire, mais plural, je ne sais pas quel serait le mot, plural, c'est-à-dire de tous les groupes, le numéro le plus grand, c'est des gens qui ont plus de 40 ans. Et alors, c'est là où on a essayé de comparer ce qu'on voyait dans les campements de homeless et leur méthode d'utilisation de drogue avec les chiffres épidémiologiques qui étaient assez intéressantes qu'on n'arrivait pas à expliquer. Par exemple, le VIH dans l'ouest des États-Unis a toujours été très très bas parmi les injecteurs, tandis qu'elle a été très très haute à l'est, à New York, à New Jersey, essentiellement le fleuve, ça c'est le terrain, mais le fleuve du Mississippi divise les taux de VIH. Et on a, par le travail comparatif ethnographique, on a vu qu'il y avait une qualité de drogue différente. C'est la mexicaine noire que vous n'avez jamais vue ici, ça n'existe pas, qui est formidable pour le VIH parce qu'elle se colle. Elle se colle dans la seringue. Alors, tu peux pas réutiliser sans laver ta seringue avec de l'eau, au moins. Alors, n'importe quelle seringue qui est utile, pas n'importe quelle, c'est-à-dire, si quelqu'un prend une seringue chaude de quelqu'un, il peut instantanément l'utiliser de nouveau. Mais normalement, tout le monde passe de l'eau dedans immédiatement après l'utiliser, sinon ils ne vont pas pouvoir le réutiliser. Et souvent, si tu prends une seringue qui est utilisée par quelqu'un d'autre, ou même le tien, premièrement, tu passes de l'eau pour être certain que la résine de la mexicaine ne s'est pas durcie dedans. Alors ça, ce qu'on a vu, ça, c'était sur les données épidémiologiques. Ça, c'est les taux de VIH dans les communautés gays, okay, qui sont plus ou moins identiques. Non, pas identiques, mais il n'y a pas de grande différence à l'exception de San Francisco, qui a toujours été l'épicentre de la communauté gay et de l'épidémie du VIH. Mais ce qui est très intéressant, quand on voit le fleuve Mississippi ici, que les taux de VIH parmi les injecteurs en jaune sont très très hauts ici. Ils sont plus bas que dans la communauté gay. On franchit le fleuve Mississippi, le St. Louis c'est sur le fleuve lui-même, et tout d'un coup, bien que les taux gays sont hauts, les taux des IDU sont basses. Et même ça, ils ont surmesuré les IDU gays dans ce chiffre. Regardez ça. Ça fait peur. Et vous savez la raison? Vancouver a seulement de la poudre blanche. Elle n'a pas une goutte. Elle n'avait pas, quand ils ont pris ces trucs, elle n'avait pas une goutte de mexicaine noire. Et c'était seulement par le hasard de comment les mafias avaient divisé la distribution de la drogue. Et c'est ce qui est encore plus bizarre. Le plus grand saisissement d'héroïne dans les années 80-90 était dans le port de Los Angeles. C'était de la blanche et pas une goutte de cette blanche qui entrait dans le port de Los Angeles touchait la rue ici. Elle allait peut-être à Vancouver, je ne sais pas si elle venait de Vancouver, mais et elle allait à l'est du Mississippi. Alors, retournons à notre manque de politique de santé publique aux États-Unis, la guerre à la drogue, les sites comme ça deviennent les sites de sécurité, si vous voulez, des injecteurs. C'est un endroit où il n'y aura pas la police qui rentrera parce que ça sent trop mauvais, c'est trop dangereux. La police n'aime pas aller dans ces endroits. Ils ont peur de toucher une seringue par erreur et tout ça. Et ça devient des sites, bien sûr, de propagation, surtout de hépatite C et d'AVC. La population alors de... âgés, disons, de plus de 40 ans, fumaient aussi pas mal de crack. C'est pas un speedball techniquement de mélange, mais ils injectaient leur héroïne et après ça passaient le reste de la journée en fumant du crack pour avoir un peu l'effet du speedball, mais sans avoir à se percer la peau. Alors ils gardaient leurs veines pour l'héroïne et ils fumaient le crack pour ne pas gaspiller, disons, leur veine. Je ne vais pas parler trop longtemps. Il y a toutes des relations de plaisir et de comportement envers la drogue qu'on voit s'exprimer de manière assez différente dans les options des différents groupes ethniques, avec un plaisir de outlaw, de défi, comme on a parlé un peu parmi la population afro-américaine, et parmi les blancs, une identité de détruit, une identité de déprimé, une identité d'avoir accès à la manche comme source d'argent et l'utilisation très forte des hôpitaux. Même si dans les mêmes campements, il y a, par exemple, lui, il ne s'injecte pas dans une veine, il est blanc, mais il injecte des autres gens dans la veine qui ont perdu leur veine à cause de leur... Le truc avec l'héroïne noire, le black tar de Mexique, c'est que ça brûle les veines. Alors les gens, leurs veines sont bien pires que les veines des gens qui utilisent la poudre blanche ou beige qui est à l'est du Mississippi. Alors il doit chercher des endroits très difficiles et dangereux d'accès, et tandis que l'autre faisait ses injections, mais je vais aller vite, parce que c'est trop horrible. Il fait ses injections seulement dans la chair, en ne pas cherchant. Mais ça donne des abcès très vite. Et on voit son corps détruit par des multiples abcès qui ont été en effet mal opérés dans nos hôpitaux. À cette époque, ils n'utilisaient pas la technique de incision and drain, qui est la technique courante, qui devrait être la technique courante avec des coupures minimes, qui faisait tout un immense carnage. Alors c'est une population vieille maintenant qui est 20 à 30 ans plus vieux physiologiquement que leur corps,
et qu'on trouve maintenant dans les hôpitaux publics avec des problèmes surtout dans le foie et beaucoup de cancers. On ne sait pas si c'est à cause de la fumée du crack ou seulement à cause de beaucoup de cigarettes, mais beaucoup de cancers, emphysème et tout ça. Alors ça, c'était mon premier, ma seconde visite au Canada. En même temps que je voyais tout ce phénomène de crack et tout ça, et ici, c'était en plein cocaïne. L'épidémie de l'injection de la cocaïne persistait. Et j'arrivais pas. Ça me choquait qu'il n'y avait pas eu de transition. Et encore, je ne le comprends pas d'une certaine manière, parce que ça me paraissait si logique de l'avoir vu à East Harlem, tellement rapide. Et il y a maintenant, j'ai l'impression qu'il y a de la cocaïne en poudre qui revient dans certaines villes. Là, je suis de nouveau en Philadelphie, et pour la première fois dans plusieurs années, je vois de la cocaïne en poudre dans la rue. Mais on ne pouvait même pas acheter de la cocaïne en poudre à San Francisco dans les années 90. Il n'y avait que de la roche, que du crack. Et ici, à cette époque, les gens étaient encore jeunes qui s'injectaient. Ça, c'était dans un hôtel à Vancouver. À New York, aux États-Unis, quelqu'un de cet âge qui n'était pas identifié très précisément avec la sous-culture punk ou traveler ou hippie ne s'injecterait pas d'une certaine manière. Alors, juste pour résumer un peu, il y a une espèce de conjugation alors avec âge et ethnicité sur les différentes. C'est une généralisation, non? Alors, c'est pas. C'est jamais 100% ou même 80-20%. Mais il y a des exceptions intéressantes. Par exemple, une persistance de la cocaïne injectée à Porto Rico qui n'est pas du tout expliquée, d'ailleurs. Mais c'est surtout en forme de speedball. Mais en Philadelphie, dans la communauté portoricaine, je suis en train de commencer un travail ethnographique, il y a une très forte injection de cocaïne qui me choque totalement. C'est tout nouveau de le revoir pour moi. C'est le cauchemar du Canada que je commence à voir en Philadelphie.
J'ai une question. Pourquoi seulement les Portoricains et pas le reste des Latino-Américains?
C'est intéressant et aucune idée. C'est-à-dire que... bien sûr, d'une certaine manière, la catégorie latino aux États-Unis, c'est une catégorie arbitraire dans le sens que le Cubain ne veut rien savoir du Portoricain, etc. Non? Mais alors, c'est des patterns de consommation très différentes entre Chicano ou Mexico. Les Portoricains ont toujours été à l'épicentre de l'épidémie de la cocaïne injectée et de l'héroïne injectée. En partie, ça fait partie de l'immigration à New York, qui était la route d'immigration portoricaine, et New York avait été un centre d'injection. Mais on vraiment ne sait pas. C'est vraiment mal compris. D'ailleurs, la marijuana se vend comme produit canadien aux États-Unis. Pour mieux vendre ta marijuana, tu l'appelles BC Bud, même si ça ne vient pas de British Columbia. Et c'est vendu dans la rue, les gens crient à haute voix BC Bud, BC Bud, BC Bud. Et il y a plein de trucs qui sont en train de changer avec le speed. On ne sait pas si le speed va rentrer dans le secteur urbain traditionnellement vulnérable afro-américain et latino. Des collègues épi et ethnographes commencent à voir des gangs latinos qui commencent à perdre leur pouvoir à cause de l'utilisation du speed de leurs propres membres. Et alors ça, quand il y a des entrées comme ça de drogue, les gangs tombent en ruine souvent, parce qu'ils ne peuvent plus contrôler leurs propres membres et ils doivent faire sortir. On dit que la destruction des gangs de New York était à cause de l'héroïne dans les années 70. On n'a pas eu de gangs à New York de fin 70 jusqu'à présent. Il n'y a pas une présence de gangs. Et on croit que c'est l'héroïne et après la cocaïne et le crack qui a détruit la discipline que les gangs ont besoin, dont les gangs ont besoin pour pouvoir rester hiérarchisés, organisés. Le truc le plus fort, c'est le rejet très, un discours de rejet très fort d'injection de toute forme de drogue parmi les jeunes qui sont de style yo, de style hip-hop. Et tandis qu'ils arrivent à inventer que c'est pas mauvais de fumer. Ça, je sais pas comment dire en français, mais c'est vraiment affreux. C'est ce qu'ils utilisent dans les funérailles pour conserver les corps. Alors c'est le liquide d'embaumement. Ils mettent ça sur la marijuana. Ça s'appelle wet, parce que c'est mouillé, ça mouille la marijuana. Ça te fend le cerveau essentiellement. C'est super. C'est affreux. Alors ça, vous reconnaissez, c'est ceux qui utilisent la seringue, qui sont seuls, qui sont jeunes, et très visibles, et qui apparaissent dans les statistiques. Dans une identité punk et aussi de hippie et traveler mélangé d'une certaine manière. Et il y a toute une identité de rebelle ne travaillera pas même pour Pinochet. C'est dans ce sentiment, comme nous parlaient les gens avant-hier, les jeunes qui se croient en fait. Et ressentent cette expérience d'être introduit à l'injection comme partie d'une fête. Et eux, ils ont des taux hauts d'injection. Nous, on est... là, ils sont en train de jouer, mais il est pas vraiment fâché. Mais on a ces statistiques horribles de violence. Lui, il est mort d'un overdose il y a 6 mois d'héroïne. Et avec une consommation d'alcool, je trouve, encore plus visible de ce qu'on voit ici. En dépit de la police qui est beaucoup plus stricte. C'est bizarre, même. Cette étude-là, c'était en dialogue avec une recherche à long terme sur les injecteurs de jeunes de la rue. Et ce qu'on avait trouvé, je devais organiser ça autour du dialogue, j'ai oublié, c'était ce que montre cette photo. Elle a là les initiales de son amant qui l'a mis dans son corps et qu'elle trouve ça très romantique et elle le montre avec fierté. Alors, on a vu une violence très très forte entre hommes contre leur femme. Et on a proposé ça aux collègues épidémiologues et pour voir quelles questions dans le questionnaire allaient nous laisser comprendre un peu plus le dynamique de genre et si on pouvait avoir une mesure d'une dynamique de couple. Et justement, ils ont trouvé, premièrement, qu'être femme te faisait séroconvertir à un âge beaucoup plus jeune, mais aussi qu'être femme couplée avec un homme qui s'injecte, te faisait séroconvertir plus. Et ce qui était intéressant, c'est que ça faisait, tout ça faisait séroconvertir plus que ce que disaient les gens. C'est-à-dire, celui qui disait, qui admettait, je partage souvent les aiguilles, ne se reconvertait pas autant que celui qui était femme ou que celui qui était dans une relation. C'était une bonne manière de... On pouvait répondre que j'ai un copain qui s'injecte, mais on ne pouvait pas nécessairement admettre à soi-même qu'on pouvait prendre des temps de risque. Bon, ça c'est... J'ai parlé pour trop longtemps. Et en effet, ethnographiquement, on a cette impression comme ethnographe dans la rue, dans le sens qu'on voit des femmes seules dans la rue, qui se maintiennent seules ici. Chez nous, c'est très difficile pour une femme de se maintenir seule, parce qu'il y a trop de violence contre elle. Alors elle doit prendre alliance avec un homme qui a l'air peur à tout le monde pour... se protéger de la violence qu'il a entendu. Alors c'est bien possible que ça me paraît, non, que vraiment les dynamiques de violence entre genres sont très différentes ici.
Mais toi, et là, sur c'est la même chose, l'incidence VIH n'est pas liée au sexe, c'est la même chose.
C'est que juste avec on était avec une de mes informatrices, puis on était vigilés, puis à un moment donné, elle voit du monde qui sont un petit peu plus loin. C'est une gang de gars, là, tu sais, qui ont de l'air fucké tough. Puis elle a peur, parce qu'on va leur parler comme ça. Moi, je m'inquiète pas, je sais, mais Philippe est comme. Il est toujours en train de checker, voir si elle crie ou se fait attaquer, puis il me l'a dit après.
C'est
en plein jour, puis il m'a dit aux États-Unis, comme ça, une fille tout seule, ça part comme ça, elle voit une gang de gars, c'est pratiquement sûr qu'elle se fait violer ou elle se fait attaquer. Puis ici, c'est comme. Puis moi, je la connais bien, la fille, puis c'est comme moi, je savais qu'elle. Au pire, c'est elle qui allait casser des gueules, là. Je m'inquiétais même pas, mais lui, il était toujours comme. Là, je le voyais, il regardait de temps en temps, voir qu'est-ce qui se passait, puis moi, je m'inquiétais pas. Fait que cette dynamique-là. Aussi, dans le sens que moi, on m'a beaucoup dit, bon, parce que là, on parlait de la gang de punks qui arrive de l'Ontario et qui tabasse du monde. On m'a dit, le problème ici, les punks, c'est qu'ils sont plus. Tu sais, ils sont pas nécessairement pour la violence. Ils sont plus. Tu sais, c'est un mélange, comme on dit un peu. C'est comme ce qu'on appelle des punks crusty. C'est comme mi-hippie, mi-punk. Ils sont pas nécessairement pour la violence. Fait que je sais pas si ça joue ce côté-là aussi, que peut-être sous-culturellement, ici, les punks sont peut-être un petit peu plus... Bon, je sais pas si c'est la même affaire, là, 15-20 ans, parce que quand on parlait, bon, là, ceux qui étaient antifascistes, les fascistes, quand il y avait Skinhead, ça brassait beaucoup plus à ce niveau-là. Mais depuis une couple d'années, moi, on me dit, tu sais, puis là, il y a ces punks-là qui arrivent, puis les autres sont comme... Puis ils se font battre, puis ils se font laisser faire, parce que, tu sais, ils sont pas nécessairement pour la violence, fait que je sais pas, tout c'est hypothétique, là, c'est... Ouais.
Mais ce qu'on voit avec les jeunes aussi, puis au niveau de la consommation, présentement, dans le carré bijé, ce qui se passe, c'est qu'il y a une gang de punks, justement, crusty, mais qui sont violents, mais qui sont violents avec les itinérants qui sont dans le carré bijé depuis 20 ans. Ça, c'est leur maison, là. Donc, il y a des itinérants qui se font taper dessus parce qu'ils s'injectent. Ils vont pas attaquer un itinérant qui boit de l'alcool puis qui dort avec son flasque à côté. Ils vont attaquer l'itinérant qui s'injecte. Puis ce qui est étrange, c'est que dans cette gang-là, la plupart boivent de l'alcool, fument du crack, ne s'injectent pas.
Ouais, c'est
mais,
ça.
Non, ça, c'est des gens d'ici. Ouais. Mais ils vont en avoir quand même quelques-uns dans cette gang-là qui s'injectent. Mais lui, il est correct, il ramasse ses flux. Tu sais.
C'est ça, ouais.
Mais c'est ridicule dans le sens où... Les bacs à Vigée sont toujours pleins, fait que c'est pas tous les itinérants qui s'amassent pas, là. Mais en tout cas, c'est... Fait que ça, on le voit aussi présentement.
C'est justement, c'est ce qu'appellent les injecteurs d'un certain âge, qu'appellent les pokies, là.
Ouais, c'est ça.
Ils oui. Ça fait quelques-uns que je connais, que je vois...
Il y en a qui sont plus là, il y en a qui sont partis, tu sais.
Non, mais on a rencontré justement, la personne a dit, ça faisait deux fois en trois ans, là, tu sais. Là, ils sont comme, là, on est en train de se ramasser du monde, là, puis on va leur sacrer une volée, puis tu sais, ça... tranquillement, là.
Et c'est filles et garçons. Pour le statut, juste pour aussi bonifier ce que tu disais, les filles aussi tabassent les vieux, là. Ils vont prendre un vieux qui est vraiment vulnérable, puis ils vont dire à la fille, vas-y, tu sais, lâche-toi là.
Il y a des chiens, oui.
D'ailleurs, souvent encore, ça ressort beaucoup, même dans les présentations comme à Barcelone, il y a eu toute une discussion autour de la pauvre. C'est toujours la même histoire, là, que beaucoup on retrouve dans la littérature, qui laisse croire que les pauvres filles se font à l'injection par leur mec, souvent dans un rapport de pouvoir inéquitable. Et, en tout cas, chez les jeunes, là, on ne peut pas se tromper. Mais pas du tout. Là. D'ailleurs, la plupart de ces jeunes-là n'ont pas de mec ou de blonde régulier, là, parce que finalement, la vie ne se permet pas vraiment d'avoir des partenaires réguliers. Variantes ethniques, ça c'est certain. Mm-hmm. C'est que ça fait un petit temps de plus à Montréal à